Ensuite, donc, il y a eu l'épisode qu'il ne vous est pas donné ici, l'épisode des cailles. Ils en ont, à un moment donné, ils ont assez de manger de la manne et ils veulent de la viande. Le lendemain, il n'y a pas de manne et vous avez des nuages de cailles qui volent très bas, de manière bizarre, n'est-ce pas ? Et ils mangent ces cailles. Et comme Dieu est très sévère à l'époque, ils ont eu des cailles pendant 30 jours. Pas de manne, rien, que des cailles. Et à la fin, hein, l'écrivain sacré dit ils n'en pouvaient plus, ils avaient de la chair qui est dans la bouche, entre les dents, ils n'en pouvaient plus. Et donc ils sont revenus à la manne. Et ils se retrouvent face à la frontière à nouveau de la terre promise. La promesse que Dieu avait faite autrefois à Abraham, à Isaac et à Jacob allait enfin se réaliser. Cependant, Moïse lui-même devait mourir avant d'atteindre. Et pourquoi ? Et bien parce que un jour, parce que Dieu ne donnait pas toujours de l'eau, il y avait eu le miracle de la pierre où Moïse avait donné un coup, et là l'eau ne sortait pas, le peuple s'était mis à murmurer selon sa coutume. Et le Seigneur avait dit à nouveau à Moïse, eh bien tu vas aller au rocher, mais là il lui dit, tu parles au rocher et il te donnera de l'eau. Or Moïse, ne se contentant pas de parler au rocher, arrive près du rocher. Il est fou furieux, lui qui était doux, qui a demandé pardon pour plein de fois. Et il dit, avec son bâton, il est là, il fait, est-ce que Dieu vous donnera de l'eau? À chaque fois vous murmurez, à chaque fois il vous donne l'eau à temps. Est-ce que vous êtes en train de mourir de soif, vraiment? Ah! Dieu, il semble qu'il leur ait révélé qu'il fallait qu'il parle au rocher. En tout cas, il l'a. Au lieu de parler, de dire que l'eau sorte de ce rocher, rocher donne de l'eau pour ce peuple, il a pris son bâton et il a tapé le rocher. Et la première fois, rien n'est sorti. Il est un peu étonné. Il a tapé une deuxième fois et là, l'eau a jailli du creux du rocher. Et Dieu, lorsqu'il est revenu à l'Arche d'Alliance, Dieu lui a dit, « Moïse, tu ne m'as pas sanctifié. Pardon ? Non, il fallait que tu parles au rocher, tu m'as désobéi, eh bien tu ne verras pas la terre promise. Tu la verras de loin, mais je te punis. » Un jour, le peuple hébreu était furax, et ils en avaient assez. En Égypte, on avait des beaux oignons, on avait de la viande, on avait de l'eau en abondance. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce désert? Dieu nous a mis là pour nous tuer. C'est un Dieu cruel, il vaut pas plus que les dieux cananéens. Pas très aimable. Alors à ce moment-là, vous avez des serpents qui sont sortis de partout et qui tuaient les Hébreux, qui les mordaient avec des blessures brûlantes, terribles. Ils en mouraient. Il y a eu, je crois, 30 000 morts. Et Moïse se jette dans le Saint des Saints, devant le propitiatoire, devant l'Arche d'Alliance, et dit « Épargne ce peuple, tu sais très bien qu'il se plaint tout le temps. » Et Dieu lui dit « Eh bien, tu vas faire un serpent en bronze, tu vas le pendre, et tous ceux qui seront mordus par les serpents, s'ils regardent le serpent en bronze, ils ne mourront pas. » Alors Moïse se dépêche, ils font fondre un serpent et ils le montent dans le désert. Et les serpents continuent encore quelque temps à piquer, mais à chaque fois qu'un Hébreu est piqué, il regarde vers le serpent et il est sauvé. Alors vous allez me dire, pourquoi un serpent d'airain en bronze? Eh bien, à nouveau, je crois, dans l'Épître aux Hébreux, c'est le signe de la crucifixion du Christ qui s'est fait péché pour nous. Et quel est le signe du péché? C'est le serpent ancien, celui qui nous fait horreur, en fait, qui nous dégoûte, n'est-ce pas, qui rampe par terre, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le signe que Satan va être tué, va être vaincu par le Christ qui va être élevé de terre, comme le serpent d'airain avait été élevé en hauteur, et à chaque fois qu'ils voyaient ce serpent, ils étaient sauvés. Mais ce n'est pas une adoration de ce serpent. Moïse, à un moment donné, a dû complètement détruire le serpent d'airain pour pas que les Hébreux commencent à adorer le serpent comme un dieu. Mais voyez, c'est... Mettez-vous à la place de ce pauvre Moïse qui a supporté ce peuple pendant 40 ans. Eh bien, figurez-vous que la Sainte Écriture a une très belle louange pour lui. On dit qu'il était le plus doux des hommes. Alors, les quelques colères qu'il a eues, et la colère qu'il a eue, eh bien, Dieu lui dit, « Eh bien, tu ne rentreras pas dans la terre promise. » Mais Dieu s'était montré, cette hésitation de son serviteur, et lui a dit, « Parce que tu as manqué de confiance en moi, tu n'entreras pas dans la terre que je donnerai à mon peuple. » Bon, c'est le Seigneur. Cependant, les Israélites, ayant longé les frontières du pays des Idumées, de l'autre côté du Jourdain, ils avaient contourné quand même, s'étaient avancés vers le nord jusqu'à la limite des états du roi des Amoréens. Moïse envoya des ambassadeurs à ce prince pour lui demander le passage sur ses terres. En passant vers la Transjordanie, il part par le sud. Et là, il y a un royaume qui n'est pas dans cananéen. Il est iduméen. Et je crois qu'ils sont plutôt sémites, les iduméens. Descendant d'Abraham. Et donc, ils demandent la permission de passer sur leur terre. Et l'autre, il dit, ben non. Et oui, mais non, on va dans la terre que Dieu a promis à Abraham. Et c'est le Jourdain, on est la frontière. Et nous, on passe simplement, on passe. Il dit, non. Bon, ben très bien. Les Israélites, reçus par lui en ennemi, lui livrèrent bataille et vont détruire complètement les armées des Iduméens. Un autre roi, celui de Basan, ne tarda pas à éprouver le même sort. Alors dans les poèmes de David, 300 ans plus tard environ, 350 ans plus tard, il décrit la victoire sur les rois de Basan et tout ça. À la suite de ces avantages, qui les avaient rendus maîtres de la plus grande partie de la rive gauche du Jourdain, les Israélites vinrent camper près des Moabites, en face de Jéricho. Effrayés de ce voisinage, Balak, le roi des Moabites, pria un sorcier d'envoyer tous les démons possibles et imaginables sur les Hébreux. Il s'appelait Balaam. Et donc il arrive sur le haut de la montagne pour maudire les Hébreux. C'est un sorcier, un devin sorcier. Au passage, la sorcellerie égyptienne et la sorcellerie cananéenne. Balaam, séduit par la récompense qu'on lui promettait, se mit en route. Et là, je fais exprès de vous parler des miracles de l'Ancien Testament pour vous faire sourire et pour faire, pour énerver les exégètes qui disent que tout ça, c'est faux. Bon. L'ânesse qu'il montait s'arrêta brusquement parce que Dieu a envoyé un ange pour empêcher Balaam de maudire son peuple. C'est très curieux comme épisode. On est dans l'Exode, on est dans les plus vieux écrits du peuple juif. Et l'ange se met face à Balaam, mais Balaam ne le voit pas, mais l'âne le voit. Et c'est un pauvre animal, et il est là, il n'avance pas parce qu'il voit une forme lumineuse devant lui, humaine, qui lui fait peur. Et comme son maître lui donne des coups de bâton pour le faire avancer, l'âne va lui parler. « Que vous ai-je fait et pourquoi me frappez-vous » Et là, alors là, Balaam, un animal qui parle, c'est pas normal. Mais vous avez dans le Nouveau Testament une référence à cette âne qui a parlé à Balaam. Et parce que Dieu voulait punir Balaam. Donc vous avez, 1400 ans plus tard, une référence à cet épisode. On verra plus tard. Mais voyez-vous, ici, je vous fais un catéchisme très concret. On lit la Sainte Écriture à toute vitesse. Et parce que la Bible est très difficile d'accès. Donc si je vous la présente d'une manière populaire et simple, profitez-en. À ce moment-là, les yeux de Balaam s'ouvrirent et saisis de crainte à la vue de l'ange, qui avait une épée de feu à la main, hein, ça rigolait pas, il se prosterna, demanda pardon et offrit de s'en retourner. Mais l'ange lui dit, non, tu vas aller au haut de la montagne, mais ayez soin de ne dire que ce que je vous commanderai. Donc il va monter, parvenu au sommet d'une montagne où l'on découvrait tout le camp des Hébreux. Imaginez, il y avait donc environ 2 millions de personnes. Eh bien là, c'est Dieu qui inspire Balaam, et donc devant le pauvre païen, il dit, que ce peuple soit béni, que le Dieu d'Abraham soit béni, c'est une merveille pour cette terre, ils vont sanctifier cette terre. Et il dit, une étoile sortira de Jacob, et il s'élèvera d'Israël un sceptre et un dominateur. Alors là, c'est l'humour de Dieu. C'est un sorcier qui est obligé de prophétiser la vérité. D'habitude, il parle comme une pythonisse, comme un devin, un sorcier, et ce sont les démons qui le font parler. Et là, c'est Dieu qui saisit son être pour le faire bénir le peuple hébreu, et non seulement le faire bénir, mais pour donner une prophétie du Messie. Et je peux vous assurer que vous allez demander à des rabbins s'ils connaissent cet épisode, et le connaissent par cœur. Et ils rigolent pas, eux. Et ils savent très bien qu'une étoile sortira de Jacob, et il s'élèvera d'Israël un sceptre et un dominateur. Et ça ne sera pas Judas. Ça ne sera pas les rois de Juda. Ça sera Jésus-Christ qui sera le roi des rois. Un sceptre et un dominateur. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez les Juifs qui attendaient un Messie, un roi, un chef de guerre. Et Jésus est le chef de guerre, mais spirituel. Pas d'armée, pas de conquête. Une très grande déception pour beaucoup d'Hébreux. Très très grande déception. Un sceptre et un dominateur. Oui, mais son sceptre, c'est la croix, et sa couronne est une couronne d'épines. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des rois chrétiens qui ont fait des guerres en disant justement que maintenant Jésus-Christ va être le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et va me permettre d'être un empereur. Mais oui, mais enfin ces empires n'ont jamais vraiment beaucoup tenu. Et le salut de l'âme ne vient pas de la conquête de pays chrétiens. Et le bassin méditerranéen est devenu chrétien uniquement par la grâce. Pendant 300 ans, de la mort de notre Seigneur jusqu'à Constantin le Grand, pendant 300 ans, 350 ans, 1er, 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, 4e siècle, les chrétiens n'ont pas levé une arme pour la moindre conquête. Et tout le bassin méditerranéen est devenu chrétien. À bon entendeur, salut. Moïse, sachant que le jour de sa mort était proche, assembla les enfants d'Israël, qu'il gouvernait depuis 40 ans. Il leur rappela tous les bienfaits dont le Seigneur les avait comblés, et leur fit jurer encore une fois de lui demeurer fidèle. Après quoi, il bénit chacune des 12 tribus. Ayant ensuite désigné Josué comme son successeur, il gravit le mont Nebo, d'où le Seigneur lui fit voir le pays de Canaan, et lui dit « Voilà la terre que j'ai promise à Abraham, à Isaac et à Jacob. Tu l'as vue, mais tu n'y entendras pas. » Et là, Moïse meurt. Le peuple sait qu'il meurt. Et voilà que Saint Jacques nous révèle ce qui se passe. Dans un livre qui décrit une partie de la vie de Moïse, mais qui est un livre apocryphe écrit par des hérétiques pour s'approprier une partie de la révélation. Je crois que c'est l'Apocalypse de Pierre ou un autre apocryphe où il y a la description que Saint Jacques va évoquer directement. Saint Jacques nous dit « Ne vous moquez pas des esprits, même de ceux qui ont la haine de Dieu, même des démons. Demandez à Dieu de les écarter de votre chemin, qu'ils ne vous influencent pas, mais ne vous moquez pas ou n'insultez pas un démon. Dites simplement « Tu es un ennemi de Dieu, que Dieu t'écarte, te réprime. » Mais dites pas « Tu es un idiot », tout ça, alors qu'ils sont 100 fois plus intelligents, 1000 fois plus intelligents que vous. N'ayez pas de discussion, n'ayez pas de part avec eux. Ne faites pas de spiritisme. Et il dit, Saint Michel lui-même, lorsqu'il a caché le corps de Moïse, n'a pas méprisé Lucifer, mais lui a dit, In peret tibi Deus, que Dieu exerce son empire vis-à-vis de toi et te chasse. Pourquoi ? Lucifer allait préparer le culte de Moïse pour qu'il soit considéré comme un demi-dieu ou comme Dieu. Et Dieu, le sachant, envoie Saint Michel qui prend le corps de Moïse et qui le fait disparaître. Et Saint Michel, c'est qui ? Saint Michel, c'est un archange, c'est celui qui s'est opposé à Lucifer, on l'avait vu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que le corps de Moïse est quelque part sur le mont Nebo, mais personne ne sait où il est exactement. Vous avez le corps d'Abraham, vous avez le corps d'Isaac, vous avez le corps de Jacob, vous avez le corps de Sarah, mais vous n'avez pas le corps de Moïse. Il est trop important. Il a obtenu de Dieu des miracles pendant 40 années de suite. Il est bien évident que le peuple l'aurait plus qu'honoré. Voilà. Petite histoire. Il mourut à l'âge de 120 ans, environ en l'an 1350-1400 avant Jésus-Christ. Moïse ne doit pas être considéré seulement comme le chef et le conducteur du peuple de Dieu. Il est encore un très grand prophète, le plus ancien et le plus admirable des historiens, parce qu'il va demander aux scribes de mettre par écrit l'histoire humaine. Et c'est lui qui fait écrire la Genèse et qui donc va décrire la chute originelle et le Noé et Babel, ce qui était la révélation adamique. C'est Moïse qui va la mettre par écrit par les scribes d'Israël. Très beau. Et donc les exégètes vont dire mais non, c'est pas Moïse. Moïse a été élevé à la cour d'Égypte. Il connaissait de nombreuses langues. Il connaissait l'écriture et une écriture complexe avec l'égyptien. Il connaissait. Il est évident. Enfin, la tradition nous le dit, la Sainte Écriture nous le dit que c'est Moïse. Mais si vous voulez, c'est plus que probable aussi, si vous voulez, naturellement, sans forcément. Croire en la révélation. En tant que libérateur et législateur inspiré du peuple hébreu, il est de plus la figure de Jésus-Christ, sauveur des hommes et divin auteur de la loi nouvelle. Alors, Jésus va souvent parler de Moïse. Et il va dire, maintenant, je réforme ce que Moïse vous a donné. Donc ça veut dire que Jésus, comme il est là depuis, il est là sur 3 ans, et il dit, moi je suis supérieur à Moïse. Imaginez un peu la tête des juifs, quand même, il se dit qu'il est plus important que Moïse. Mais oui, mais il fait des miracles, hein. Il ressuscite des morts. Et devant Pierre, Jacques et Jean, sur le mont Tabor, Jésus avait dit, avant la fin des temps, vous verrez ma gloire. Et il a montré sa gloire à Pierre, Jacques et Jean, pour qu'ils puissent être confirmés en grâce et transmettre leur espérance. Et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu Jésus, qui tout d'un coup est devenu translucide et d'une lumière incroyable, hein, on dit lumineux comme le soleil, et en gloire devant ses apôtres qui se sont inclinés, et sont apparus Moïse et Élie, que nous verrons plus tard, mais Moïse est apparu. Moïse n'est pas ressuscité. Le corps de Moïse a été déposé au mont Ébal. Peut-être qu'il est ressuscité le jour de Pâques, hein, parce que c'était quand même un saint homme. Bon, bon. Le jour de Pâques, il y a plusieurs justes qui ont ressuscité et qui ont été vus à Jérusalem. Mais on ne dit pas qu'on a vu Moïse. Mais Moïse peut se réserver, le bon Dieu peut réserver la belle résurrection de Moïse pour la fin des temps. Hein. Il n'empêche que son âme a été rendue visible par apparence d'emprunt aux yeux de Pierre, Jacques et Jean. Et ils ont vu l'âme de Moïse. Comme les anges se rendent visibles en faisant une image, en concentrant de la matière, en faisant un hologramme pour qu'on puisse voir une apparence. Les anges peuvent nous parler à nos oreilles, à notre âme, ou nous parler avec une apparence visible. Ils jouent avec la matière. Une âme séparée, ce qu'on appelle un fantôme ordinairement, une âme d'un mort, ne peut apparaître que par la permission divine. Et pour qu'elle apparaisse, elle peut vous parler sans apparence, puisqu'elle n'a, une âme est immatérielle, ou il y a une sorte d'apparence, un hologramme ou fantomatique, n'est-ce pas ? Des personnes ont vu des âmes mortes, enfin des âmes séparées de leur corps. Alors elle dit, mais c'est pas possible, vous croyez à ça aussi ? Mais demandez à des exorcistes, hein, eux ont vu des esprits. Mais des esprits démoniaques, mais aussi des esprits de mort, des âmes. Et là, voyez-vous, vous allez me dire, mais vous ne croyez pas quand même à ça ? Et oui, mais le problème, c'est que c'est dans les évangiles. Oui, mais justement, c'était des chrétiens ivres-morts qui ont écrit ces passages-là, hein, qui ont enjolivé, ou qui ont fait des trucs un peu bizarres, vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas lu l'exégète machin, l'exégète truc. Oui, mais le problème, c'est que, alors non seulement, on ne va plus croire en l'existence des anges, on ne va même plus croire en l'apparition d'âmes, mais un jour, on ne va même plus croire en notre âme. Parce qu'actuellement, voyez-vous, ce qui fait bouger ma matière, c'est une âme. Hein. Et quand je mourrai, mon corps sera un tas d'atomes, un cadavre. Et mon âme, elle sera ailleurs. Et si vous ne croyez pas que l'âme est immortelle et qu'elle survit à la désorganisation de mon corps, par maladie, par rupture d'anévrisme, crise cardiaque, décapitation, mort, brûlé vif, coupé en morceaux, enfin, je ne sais pas comment je vais terminer avec ce qui nous arrive, mais si je meurs dans mon lit, vous voyez, mon âme, elle va sortir de mon corps, point. Un point, c'est tout. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que d'abord, on est en catéchisme, donc je vous dis des réalités, donc, pas seulement historiques ou d'histoire sainte, mais des choses concrètes de votre vie tous les jours. Mais Pierre, Jacques et Jean ont vu un fantôme, c'est clair? Et le fantôme de qui? De Moïse. Comme Saül, après la mort de Samuel, le prophète Samuel, a voulu invoquer l'âme de Samuel pour savoir si elle allait gagner la guerre. Et Samuel lui est apparu. Le fantôme de Samuel est décrit dans la Sainte Écriture, dans le Livre des Rois. Et bien le fantôme de Moïse est décrit dans les évangiles. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il y a Élie. Alors là, je vous l'ai un peu dit déjà, mais on est dans le surnaturel, mais vous allez voir un peu ce que c'est que la foi, et la foi chrétienne, c'est surnaturel. On croit en des choses surnaturelles. Parce que si on ne vivait que pour être des moustiques, des araignées, ou des chevaux, ça serait terrible. S'il n'y a pas... Si Dieu qui a fait ses mains, qui a fait ses yeux en face des trous, hein, et ses oreilles, il est puissant et il fait de belles choses. Eh bien, voyez-vous, Élie est toujours vivant actuellement, hein, comme le patriarche Enoch. Mais j'en reparlerai peut-être un jour. Et Moïse. Et Jésus parle avec eux. Imaginez Moïse, qui n'est pas encore dans la vision béatifique, parce que le ciel n'est pas encore ouvert, le Christ n'est pas encore mort et ressuscité. Donc Moïse, qui attend le salut, discute avec le Christ et Élie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et Jésus va leur dire, les prophéties vont s'accomplir, je suis le serviteur souffrant, je vais mourir, je vais être crucifié. Et il parle de sa passion avec Moïse et avec Élie. Il faut s'imaginer Moïse, vous voyez, lui qui a tout vécu, mon Dieu, qui, même mort, le bon Dieu lui a montré l'histoire de son peuple, après, bien sûr. Il a vu les prophètes, il a vu leurs souffrances, il a dit, et lui a reçu pendant tous ces siècles la même espérance que ceux qui étaient vivants. Il dit, donc notre Messie, notre Sauveur, va souffrir. Et là, il est là avec Jésus, et Jésus leur dit, je vais mourir. Et Pierre, Jacques et Jean entendent la conversation de Jésus, Moïse et Élie. Et le répéteront, et il est écrit dans les saints évangiles, ils parlèrent de sa passion. Voilà, c'est quand même impressionnant. Moïse, ce brave homme qui était mort 1400 ans plus tôt et qui voit Jésus et qui lui parle en âme. Le peuple va pleurer Moïse pendant 40 jours. Je crois que le deuil de Moïse a duré 40 jours. Et Josué va leur dire, « Eh bien maintenant, nous entrons dans la Terre Sainte. » Et lorsqu'ils rentrent pour prier, la colonne de nuée se place au-dessus du Saint des Saints. Donc tout le monde reconnaît Josué comme le successeur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi et passe le Jourdain. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse et nul ne pourra te résister. Josué se disposa donc à obéir. L'arche d'alliance précédait l'armée. Donc ils sont sortis de la tente et vous aviez les fils d'Aaron qui portaient l'arche d'alliance. Donc ils arrivent et ils marchent. Vous avez la Terre Sainte là et le Jourdain. Et donc les Hébreux, ils sont derrière, ils ont tout plié, ils ont plié leur tente et tout, ils sont avec leurs troupeaux, et ils marchent en colonne, et ils se disent, comment ça va se passer quand on va arriver à l'eau, hein? Bon. Dès que les prêtres qui portaient l'Arche d'Alliance posèrent le pied sur la berge, l'eau s'est zébrée. Le Jourdain est parti sur la gauche vers la mer Rouge, pardon, qui est fou, et tout s'est desséché sur la gauche, et sur la droite, vous avez le fleuve qui s'est arrêté. Une muraille d'eau de 3 à 4 mètres de haut, et ils descendirent dans le lit du fleuve, et le lit de fleuve s'est desséché. Parce qu'imaginez, hein, 2 millions de personnes qui traversent dans la boue, ça va mal se passer. Hein. Ils vont perdre quelques petits moutons et quelques vieillards. Hein, qui vont... voilà. Tous dessèchent. Les eaux qui venaient d'en haut cessèrent de couler. Et s'amoncelant comme une muraille, laissèrent un passage libre aux Hébreux qui gagnèrent à pied sec la rive opposée. Donc ils passent en... Imaginez la tête des Hébreux, surtout les jeunes. Enfin, les jeunes avaient vu la colonne de nuée. Ils n'avaient pas vu les miracles, le miracle des cailles. Ils avaient vu tous les matins, ils voyaient la manne. Ils rentrent et ils passent. Imaginez la tête. Ils tournent à droite là, et ils voient une colonne d'eau. Enfin, un mur d'eau. Ça a dû être merveilleux. Ils sont passés. Et pourquoi Dieu fait ça? Mais pour les conforter dans la foi. Parce qu'ils vont devoir transmettre cette foi. Ils vont affronter des peuples qui égorgeaient les bébés. Donc ils passent. Le dernier passe. Et quand le dernier est passé, le Jourdain recoule derrière eux. Et vous avez des païens qui étaient qui regardaient un peu la scène, qui en disent, oh là 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 là, ce sont des magiciens. Ils ont des sorciers avec eux, ça va très mal se passer, il faut se préparer. Et dans tout le pays de Canaan, on dit, ouh, il y a un peuple de sorciers qui arrive. Parce qu'eux, ils ne raisonnent que par les démons et les sorciers. Cependant, tous les obstacles n'étaient pas vaincus. Les Israélites avaient devant eux des villes fortifiées dont ils devaient s'emparer, des peuples aguerris. Les principaux de ces peuples étaient au nord les Sidonéens et les Gergéens, au centre les Évéens, au midi les Jébuséens, ce qui donne Jérusalem, je crois, les Éthéens, et à l'ouest, sur la côte méridionale, les Philistins, la bande de Gaza. Et les descendants des Philistins, ils font toujours la guerre aux Hébreux. On est en 2016, hein, tout va bien. Le Jourdain franchi, Josué se disposait à faire le siège de Jéricho, quand le Seigneur lui dit « Que tous vos guerriers fassent une fois par jour le tour de la ville. » Alors, il y a une chose qui passe là, c'est que dans le désert, les Hébreux vont avoir peur de circoncire leur bébé à cause des déplacements de la colonne et tout ça, et ils n'ont pas circoncis les bébés. Quand ils ont passé le Jourdain, Josué va faire prendre des silex et il va circoncire tous les hommes qui n'avaient pas été circoncis, bébés et adultes. Et bien pendant 3 jours, tout le monde est resté tranquille au lit, n'est-ce pas, pour cicatriser. Voilà. Petit en passant, voilà, ils ne le mettent pas, mais moi j'ai lu la Bible 5 fois, hein, et donc j'ai des souvenirs amusants. Et donc ils arrivent devant la grande ville de Jéricho, avec des grandes murailles, et là Dieu, alors, ils sont là, ils disent comment on va faire, ils ont fait quelques batailles qu'ils ont gagnées en rase campagne, mais là ils ont une cité énorme. Et Dieu leur dit, eh bien vous allez sortir tous les jours avec l'Arche d'Alliance, vous allez faire le tour de la ville et vous allez rentrer. Donc tous les jours, vous avez les prêtres qui prenaient l'Arche d'Alliance, le peuple qui suivait derrière, l'armée, le peuple, ils faisaient tout le tour de la ville. Imaginez la tête des habitants de Jéricho, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces dingues ? Donc ils étaient là, où ils faisaient un tour de la ville et ils repartaient dans leur camp. Bon. Tous vos guerriers fassent une fois par jour le tour de la ville. Le 7e jour, les prêtres prendront les trompettes d'argent. Bon. Et vous ferez 7 fois le tour de la ville au son des trompettes. Les trompettes de Jéricho, ça vous dit quelque chose ? Donc ils sont là et ils font 7 fois le tour de la ville en sonnant la trompette. Oh, oh, oh. Alors les habitants de Jéricho, ils devaient être pliés de rire. Hein, ils ont dit, tiens, si on prenait encore un bébé, tout ça, parce que les habitants de Jéricho, c'était des idolâtres massacreurs de bébés. Hein. Pourquoi j'insiste ? Parce que vous allez un peu avoir peur.